Vous écoutez, on lit pour vous.
Faire le bonheur des politico-anxieux. Un texte de François-William Croteau, paru le 5 mars 2025 dans Le Devoir. Depuis le 20 janvier 2025, le monde entier semble marcher sur la tête. En à peine 2 mois, Donald Trump a fait du plus grand allié du monde libre un partisan des régimes autoritaires et répressifs. Fini, balayé d'un simple revers de main, les principes diplomatiques et multilatéraux patiemment construits depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle réalité oblige les rares défenseurs des démocraties libres à s'adapter et à redéfinir le sens même de leur action commune. On connaît déjà les échos anxieux. Bientôt, il y a fort à parier que nous aurons des masses de politico-anxieux angoissés par les tensions géopolitiques. Mince consolation, pendant 2 semaines, chaque matin en ouvrant mon rideau, j'ai pu voir Montréal recouverte d'un manteau blanc éclatant. Un détail anodin, direz-vous? Peut-être, mais c'était suffisant pour me permettre d'entamer la journée avec un brin de sérénité. Cette neige, restée étonnamment blanche, me renvoyait l'image d'une résistance aux turbulences internationales comme un dernier rempart face aux tensions trumpiennes qui finissent par peser un peu trop dans nos quotidiens. Le brin de nostalgie à l'idée de ne plus être impliqué dans la gestion des opérations de déneigement m'est vite passé en voyant ressurgir ces éternels rabat-joie jamais satisfaits du travail accompli par celles et ceux qui se dévouent pour améliorer notre quotidien. Il faut saluer les personnes qui, en l'espace de 2 semaines, ont mis toutes leurs énergies à ramener un semblant de normalité dans la ville. D'autant plus qu'aucune n'avait jamais eu à gérer un tel défi. C'est qu'il s'agissait bel et bien de la plus grande quantité de neige tombée en moins de 4 jours depuis 1898, soit 127 ans, rien de moins. La tempête du siècle peut aller se rhabiller. À lui seul, ce fait aurait dû suffire à nous faire comprendre l'ampleur de la tâche qui attendait nos valeureux guerriers de l'hiver. Car c'est bien un combat de tous les instants qu'ils ont dû mener dès que les premiers flocons sont apparus dans la nuit du 12 février 2025. Je me souviens très bien d'avoir dit à ma blonde, quand la deuxième bordée de neige a commencé le dimanche suivant, « Ils vont perdre les trottoirs ». C'est là une expression bien connue de ceux qui ont déjà participé à la gestion du déneigement dans une ville. Beaucoup de personnes l'ont d'ailleurs découverte grâce au très volubile et divertissant porte-parole de la ville de Montréal, Philippe Sabourin. Il a un talent exceptionnel pour vulgariser les opérations complexes et les rendre presque simples. Perdre les trottoirs, donc, signifie que, même avec la meilleure des planifications, les conditions vont empêcher leur dégagement, les rendant totalement impraticables. Cela se produit généralement lors d'un épisode de verglas ou lors d'une tempête majeure. Quand les éléments se déchaînent avec une intensité telle que, peu importe l'organisation des opérations, il devient alors impossible de les garder dans de bonnes conditions, voire accessibles. C'est exactement ce que nous avons vécu le 16 février 2025. Dans de telles conditions, on assiste parfois à des scènes inusitées comme des chenillettes complètement empêtrées dans la neige, incapables de se dégager sans l'intervention d'un remorqueur. Dans des cas comme ceux-là, la seule solution est d'attendre le chargement pour libérer l'espace piéton. Mais cette fois-ci, prévoir le délai que cela prendrait relevait de l'exploit. Rappelons-le, jamais personne n'avait eu à gérer une telle situation auparavant. Peu importe les scénarios envisagés, il y avait trop d'impondérables pour donner une estimation fiable. Mais, bien sûr, on exigeait tout de même des réponses. On voulait surtout savoir quand tout serait terminé. Ce qui me fait penser à ceux qui, malgré des circonstances exceptionnelles, ont encore trouvé le moyen de dénoncer le fait que certaines pistes cyclables avaient été déneigées avant les trottoirs. On oublie pourtant un détail essentiel. En étant dans la rue, contrairement aux trottoirs, elles ne sont pas coincées entre les terrains et les bancs de neige, ce qui facilite grandement leur dégagement. Il est donc presque impossible de perdre une piste cyclable, ce qui est quand même arrivé cette fois-ci. Pourtant, je n'ai entendu personne s'indigner du fait que les rues aient été, comme toujours d'ailleurs, déneigées bien avant les trottoirs. C'est étrange, tout de même. Voir les voitures circuler sans entrave avant les piétons ne choque personne. Mais dès qu'un vélo passe, c'est le scandale. Ça doit être, encore une fois, la faute du grand lobby cycliste qui sévit sous toutes les administrations, même celles qui lui sont pourtant peu favorables. Je le répète, il faut souligner le travail incroyable de toutes ces personnes qui ont enchaîné des heures interminables pour remettre la ville dans un état presque normal. Reste que c'est l'hiver et on ne peut pas espérer qu'un matin de février ressemble à un matin de juillet, surtout pas après la plus grande tempête de neige en 127 ans. Même si la neige finit toujours par disparaître, comme à son habitude, je me console en me disant que chaque matin où j'ai ouvert avec plaisir mon rideau pour contempler cette belle couverture blanche, quelque part, d'autres faisaient la même chose avec le même sentiment. Cette neige prodigieuse en a sûrement apaisé plusieurs, en plus d'offrir aux politico-anxieux, ce que je ne suis pas, un petit bonheur passager plus que bienvenu. C'était « Faire le bonheur des politico-anxieux », un texte de François-William Croteau paru le 5 mars 2025 dans Le Devoir.
La sexualité après un diagnostic de cancer, un tabou à briser. Un texte de Marie-Ève Martel paru le 8 mars 2025 dans Virage. Entre un corps transformé qu'on ne reconnaît parfois plus et les émotions complexes qui en découlent, renouer avec sa sexualité après un diagnostic de cancer est un défi de taille qui, heureusement, n'est pas insurmontable. En 35 ans, le taux de mortalité du cancer a chuté de 26 % chez les Canadiennes et de près de 40 % chez les Canadiens, indique la Fondation québécoise du cancer. Les chances de survivre au moins 5 ans sont passées d'un peu plus d'une sur deux il y a 30 ans à près de 2 sur 3 en 2023. Citation. Survivre, c'est bien, mais survivre avec une bonne qualité de vie, c'est encore mieux. Fin de citation, affirme Jeanne Bouteau, gynécologue au CHUM. Et même si une sexualité satisfaisante fait partie d'une qualité de vie enviable, citation, c'est encore tabou de parler de sexualité et de cancer. Fin de citation, reconnaît Kimberly Thibodeau, travailleuse sociale au programme d'oncologie psychosociale du CUSUM. Le calme après la tempête. Citation, pendant les traitements, les patients sont dans un état de survie, avance la sexologue retraitée Renée Pichette, qui a œuvré auprès d'une clientèle oncologique au CHUM. Passer à travers leur demande beaucoup d'énergie. Fin de citation. Citation. En chimiothérapie, je ne me sentais pas à l'aise du tout de me rapprocher physiquement de quelqu'un. Fin de citation. Témoigne Marie-France, à qui on a diagnostiqué une tumeur il y a une vingtaine d'années. C'est quand la tempête est derrière eux que les patients songent à leur vie sexuelle. Une fois la proximité physique perdue, même temporairement, il devient cependant plus difficile de la rebâtir. Certains cancers féminins font basculer les patientes dans une ménopause précoce, indique Dr. Bouteau. Surviennent alors bouffées de chaleur et insomnie, mais aussi une baisse de la libido et du désir. Citation. La ménopause précoce peut aussi entraîner le syndrome génito-urinaire qui peut être empiré par certains traitements. Les femmes vont alors vivre plus de sécheresse vaginale, d'inconfort et de douleur. Fin de citation, détaille la gynécologue, ajoutant que des traitements hormonaux peuvent être prescrits pour y remédier. Marie-France l'a vécu. Citation, tout en corps change. Les hormones, des vaginites, la peau sèche ou la rétention d'eau, dit-elle. Après ma chimiothérapie, mon corps emmagasinait de l'eau. Dès qu'on me touchait, j'avais mal, je n'avais aucune envie qu'on s'approche de moi. Fin de citation. Comme le corps est programmé pour nous empêcher de revivre une expérience douloureuse, il est possible que l'idée d'avoir une relation sexuelle dans ces conditions soit rebutante. Les hommes ne sont pas en reste. Plusieurs cancers affectent leur capacité à avoir une érection ou à la maintenir. Citation. Il faut se demander, est-ce qu'on vit bien avec ça? Fin de citation, souligne Kimberly Thibodeau. Une estime de soi à rebâtir. Mastectomie, ablation d'un testicule ou d'une partie de la langue, et on en passe. Au-delà de l'aspect mécanique de la sexualité, le cancer et ses traitements peuvent affecter négativement l'image corporelle des malades. À cela s'ajoute la perte des cheveux, des cicatrices ou des fluctuations de poids qui minent le sentiment d'être désirable chez les personnes survivantes. Citation. Pour ce qui est des stomies, la peur ou le dégoût, c'est souvent plus difficile à gérer pour les partenaires. Fin de citation, illustre René Pichette. Avec une estime de soi au plancher, difficile d'être dans un état d'esprit propice au rapprochement. Citation. Moi, je dois me sentir bien et belle pour aller plus loin. Fin de citation, confirme Marie-France, à qui il manque une partie de la clavicule et une omoplate. La femme arbore aussi une longue cicatrice. Le fait de ne pas se sentir désirable suscite la crainte d'être délaissée par son ou sa partenaire. Citation. Ça va dépendre de comment les conjoints se sont accompagnés pendant la maladie, estime Kimberly Thibodeau. De voir son partenaire comme une personne malade peut entraîner la peur de lui faire mal. Fin de citation. Dans la plupart des cas, la conjointe ou le conjoint est compréhensif. Citation. J'ai vu des couples où le partenaire qui n'était pas malade disait trouver l'autre aussi beau ou belle qu'avant la maladie. Fin de citation, ajoute la travailleuse sociale. Citation. Ils vont dire « Ce n'est pas grave s'il lui en manque un morceau. L'important, c'est que l'autre soit en vie et hors de danger. » Fin de citation, renchérit René Pichette. Même les célibataires se posent ces questions et craignent de ne jamais retrouver l'amour. Au moment d'être soignée, Marie-France connaissait déjà celui qui allait être son mari pendant 15 ans. Aujourd'hui divorcée, la situation est plus difficile, reconnaît-elle. Citation. Mon apparence fait peur à plusieurs hommes, dit-elle, déçue. Pour une relation sérieuse, ça décourage beaucoup d'hommes d'aller plus loin. Fin de citation. Réinventer sa sexualité. La clé de la guérison réside là. Après un cancer, il faut vivre le deuil d'une partie de sa sexualité liée à sa vie d'avant. Toutes les professionnelles sont d'avis qu'un retour à une sexualité épanouissante est possible dès qu'on y met des efforts. Citation. Ça ne sera pas la même chose, mais en ouvrant ses horizons, il est possible d'y trouver son compte. Fin de citation, promet René Pichette. C'est l'approche utilisée par Marie-France. Citation. Ce cancer-là ne m'appartient pas et je suis encore en vie. Je tente de retrouver une certaine sensualité. Pour gagner confiance en moi, je mise sur d'autres atouts. Fin de citation, dit-elle. Même si son mariage est aujourd'hui chose du passé, son union lui a appris que de vivre une sexualité satisfaisante est possible après un cancer. Citation. Avec mon ex-mari, on s'est enlevé la pression d'avoir des relations complètes, témoigne la survivante. On se donnait de l'affection, on avait des moments de tendresse, tout simplement. L'intimité est importante parce que là-dedans, tu te sens mieux épaulée. Fin de citation. La principale intéressée le confirme en entrevue. Le soutien du partenaire, c'est très sexy. C'était « La sexualité après un diagnostic de cancer, un tabou à briser », un texte de Marie-Ève Martel, paru le 8 mars 2025 dans Virage.
Le petit âge glaciaire, un texte d'Alexis Riopel, paru le 14 janvier 2025 dans Québec Science. Du 16e au 19e siècle environ, un froid glacial persistant s'est abattu sur certains continents. Ou comment une variation de quelques degrés peut avoir de grandes conséquences. À la fin du 17e siècle, des monstres gelés descendent du haut des Alpes. D'hiver en hiver, les glaciers s'allongent, lentement mais sûrement, vers de nouveaux domaines. Dans la vallée de Chamonix, près du Mont-Blanc, un glacier avale fermes et villages. La population, affolée, fait appel à l'évêque de Genève pour procéder à l'exorcisme des forces maléfiques responsables de l'engloutissement. Ailleurs, sur le continent, la chasse aux sorcières bat son plein pour faire cesser la grisaille frigorifique. Dans l'océan Arctique, des baleiniers hollandais en route vers les îles Jan Mayen et Spitzberg se heurtent à la glace même en plein été. Pourtant, depuis des générations, chaque printemps, ils se rendent là-bas pour chasser la baleine boréale dont le gras sert à éclairer les chaumières et à fabriquer du savon. Leurs ancêtres ont bâti de petits villages sur ces îles nordiques. Ils y ont laissé leurs fours à graisse. Voilà que ces baleiniers doivent désormais rebrousser chemin. Le monde traverse alors le petit âge glaciaire de 1550 à 1850, lors duquel le climat s'est refroidi d'environ 0,5 degrés Celsius. En Europe, la chute du mercure est plus prononcée alors qu'il baisse parfois de 2 degrés Celsius, assez pour qu'à Londres, en hiver, on organise des foires sur une Tamise durement gelée. Une baisse de l'activité solaire, une variation de l'axe de rotation terrestre et un vigoureux volcanisme figurent parmi les éléments proposés pour expliquer cet épisode climatologique qui changea le cours de l'histoire. Les populations paysannes furent les premières à en payer le prix. La saison de croissance des plantes se raccourcit. Les gels hâtifs détruisent les récoltes. Les hivers trop rigoureux tuent les semences. Dans les granges mal isolées, les gelées gâchent les réserves de céréales et de bière. Les saisons rudes condamnent les fermiers et les fermières à passer plus de temps à l'intérieur, auprès des bêtes d'élevage et de leurs compagnons, les rats, qui les exposent à de vilaines maladies. De grandes famines affligent l'Europe à répétition. Les pires coïncident avec les plus importantes vagues de froid. Le changement climatique dérègle les courants, les précipitations, les vents. En Hollande, de puissantes tempêtes battent la côte, brisant les digues et les écluses, inondant certaines des régions les plus peuplées, tuant des milliers de personnes. Les canaux et les ports, englacés, ne permettent plus la livraison de grains, le transport des gens et le déplacement des armées. En 1795, l'amirauté hollandaise encaisse un coup dur quand une partie de sa flotte, prise dans la glace d'un détroit, est capturée par des soldats français à cheval. En fait, à peu près tout déraille au XVIIe siècle. Les grands empires européens mènent guerre après guerre, mais manquent de surplus agricoles pour financer leurs appétits de conquête. Aux famines s'ajoutent des épidémies et des migrations, notamment vers l'Amérique, auxquelles succèdent des rébellions et des éclats de violence. Cette crise globale, dont le petit âge glaciaire n'est pas l'unique cause, mais un accélérateur, tue jusqu'à un tiers de la population mondiale, selon l'historien anglais Jeffrey Parker. Et pourtant, cette histoire n'est pas celle d'un effondrement de l'Europe. Au XVIIe siècle, la Hollande vit même son âge d'or, envers et contre les défis climatiques. Pour dégager les canaux gelés, on perfectionne les machines brise-glace, tirées par des chevaux. Le refroidissement fait migrer le hareng de la mer Baltique à la mer du Nord, au bénéfice des pêcheurs hollandais. Les villes se développent. Les citadins, disposant d'une plus grande diversité d'aliments que les campagnards, sont moins sensibles aux aléas météorologiques. Partout sur le continent, on adapte l'agriculture à la nouvelle réalité. En Finlande, on remplace l'orge par le seigle d'automne, qui mûrit plus tôt dans la saison. Dans les hautes collines de l'Écosse, les bergers commencent aussi à cultiver l'orge afin de parer aux hivers rudes et inégaux qui affaiblissaient chèvres et moutons. En Bosnie, on remplace le vin par le brandy aux prunes, alors qu'en France, la limite nordique de la viticulture recule de 400 km vers le sud afin que les vignerons se lancent à la poursuite d'un peu de chaleur pour leurs raisins. Famines et guerres, résilience et transformation, le petit âge glaciaire donne un aperçu des déséquilibres que provoque une légère variation climatique. De quoi glacer le sang quand on se rapporte à notre époque. Si tous les pays respectent leurs engagements actuels, ni plus ni moins, le réchauffement atteindra 3 degrés Celsius en 2100. C'était Le petit âge glaciaire, un texte d'Alexis Riopel, paru le 14 janvier 2025 dans Québec Science.
Comment prévenir les moisissures dans la salle de bain? Un texte de Florence Dancause, paru le 1er mars 2025 dans La Presse. L'entretien de la maison est source de beaucoup de questionnements et certains se tournent vers ChatGPT pour les aider. Nous avons soumis à un expert une question fréquemment posée à l'intelligence artificielle. Voici la réponse humaine. La question de la semaine. Comment prévenir la formation de moisissures dans la salle de bain? Réponse de notre expert Kevin Sirois, président de décontamination Sportec. De petites taches noires sont apparues sur le plafond qui surplombe votre douche. Vous n'êtes pas seul, confirme le président de décontamination Sportec, Kevin Sirois. La salle de bain est un des endroits les plus communs pour les moisissures, dit-il. Cette pièce est évidemment le milieu idéal pour que des champignons prolifèrent. D'abord, il y a de nombreuses pièces de plomberie qui peuvent mal fonctionner. Souvent, on ne le voit pas, mais il peut y avoir une infiltration d'eau derrière la douche et ça cause de la moisissure avec les années, illustre Kevin Sirois. L'autre cause principale est l'humidité. Les sources sont multiples, les douches, les baignoires, les serviettes et les tapis de bain bien mouillés. Le ventilateur est rarement mis en marche assez longtemps pour évacuer l'humidité, expose notre expert. La première chose qu'on fait quand on sort de la salle de bain, c'est qu'on éteint la lumière et le ventilateur, puisqu'il est souvent connecté, mais il reste encore beaucoup d'humidité, indique-t-il. Pour pallier le problème, il suggère d'utiliser un humidista, soit un détecteur d'humidité et commande de ventilateur. L'appareil détecte par lui-même quand l'humidité est trop élevée et active la ventilation, qui peut aussi être déclenchée manuellement. Si l'installation d'un tel détecteur n'est pas réalisable, laissez fonctionner le ventilateur non seulement pendant la douche, mais au moins 20 minutes après que l'on a terminé est idéal.
On devrait viser un taux d'humidité de 50 % indique le président de décontamination Sportec. À 60 % j'ai déjà vu des problèmes. C'est courir après le trouble. À moins de 30 % ça devient trop sec et ça peut altérer le bois. S'assurer que notre ventilateur évacue bien vers l'extérieur est une autre priorité. Dans les années 1970 et 1980, la ventilation se faisait dans l'entretoit et ça faisait de la condensation et donc des moisissures, explique Kevin Serrois. Que fait-on si notre salle de bain n'a aucun ventilateur? Un déshumidificateur est une solution, bien qu'imparfaite, déclare le président de décontamination Sportec. Les champignons peuvent aussi s'incruster dans les joints de la douche ou du bain. Pour prévenir la formation de moisissures sur les coulis, Kevin Serrois suggère d'appliquer un produit scellant tous les 6 mois. Comme les joints sont poreux, ils absorbent l'humidité, il faut donc mettre un produit imperméable. Pour les joints en silicone, on devrait les changer dès qu'ils commencent à être altérés. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, avertit-il. Sinon, ça peut aller jusqu'à retirer le bain et décontaminer derrière, donne-t-il en exemple. Que faire si on a de la moisissure dans la salle de bain? On peut traiter soi-même une petite surface de 3 plaques ou moins, d'un total d'un mètre carré, moyennant des précautions, indique Santé Canada. Si les moisissures dépassent cette surface, et surtout, si cette dernière totalise plus de 3 mètres, faire appel à un spécialiste est l'option à privilégier. Tu en as à 3 ou 4 endroits dans la salle de bain, ton air a sûrement besoin d'être décontaminé, ce n'est plus juste de la moisissure de surface, indique pour sa part Kevin Serrois. Si on nettoie et que la moisissure revient, on doit faire appel à des spécialistes, ajoute-t-il. Est-ce que des rénovations sont toujours nécessaires? Si la moisissure est seulement sur la peinture et qu'elle n'a pas attaqué le gypse, on peut décontaminer en surface, mais si le gypse est attaqué, on doit le retirer, estime notre expert. Un endroit précis est toujours sujet à des moisissures malgré la prévention? Il y a des peintures antifongiques qui fonctionnent relativement bien, mais c'est pour des cas extrêmes. Et en dernier lieu, pointe le directeur de décontamination Sportec. Produits et appareils nécessaires, scellant pour coulis, scellant silicone pour salle de bain, détecteur d'humidité et commande de ventilateur. C'était « Comment prévenir les moisissures dans la salle de bain », un texte de Florence Dancause paru le 1er mars 2025 dans La Presse.